Une création.
Blast.
La logistique, finalement, c'est ce qui irrigue la vie économique, la vie quotidienne. C'est 2 millions d'emplois et beaucoup d'innovation et surtout beaucoup d'utilité.
Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible?
Le mot qui me vient pour décrire la logistique, c'est ou frénésie ou folie.
Les gens, ils voient juste le camion qui arrive, qui livre, mais ils ne savent pas tout l'acheminement qu'il y a derrière. Ils ne le voient pas.
La première fois que j'ai passé la porte d'Amazon, je me souviens que j'étais impressionné. Il y avait plein de zones avec des palettes au sol et puis des étagères remplies d'articles. Enfin, ça donnait un petit peu une impression de surabondance, quoi.
Il y a des convoyeurs, il y a des colis, il y a des cartons, il y a des trucs automatisés, il y a les collègues qui se chambrent un peu, genre de brouhaha, mais on essaie d'avoir une bonne ambiance.
Il y a un bruit de fond très fort, et c'est le bruit du convoyeur, cette grosse machine sur laquelle circulent les tapis et qui est assez épuisant au quotidien.
C'est des gestes répétitifs, donc à chaque fois, voilà, faut envoyer, quoi.
C'est très 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 physique et le chargement ou le déchargement, il est très 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 dur.
Je m'appelle David Gabriot, je suis enseignant-chercheur en sociologie et ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je travaille sur le secteur de la logistique. Moi, je rencontre l'entrepôt pour la première fois en intérim et en fait, je fais ce que font beaucoup d'enfants d'ouvriers dans les entrepôts logistiques. Mon père travaillait dans un entrepôt logistique et l'été, j'y vais pour gagner des sous. Donc je travaille pendant 2 mois en intérim sous commande vocale dans un entrepôt d'un sous-traitant de Carrefour. Avec ces outils-là, on a un script qu'on doit respecter point par point, donc un scénario à suivre, avec aucune possibilité de prendre de l'avance. Aucune possibilité non plus de revenir en arrière.
Répétez.
Cette première rencontre, c'est une rencontre frontale avec le monde ouvrier sous sa forme très taylorienne. À une époque où moi je sors du lycée, où on nous apprenait que le taylorisme c'était fini, que maintenant c'était le toyotisme avec des métiers qualifiés et des nouvelles technologies, moi je me retrouve dans un entrepôt à faire des gestes répétitifs avec un casque sur les oreilles, un micro devant la bouche et une voix numérique qui nous dit tout ce qu'on doit faire, tous les colis qu'on doit prélever. Au bout d'un moment, ça va devenir plus simple de suivre le script point par point et de ne pas trop réfléchir. C'est toujours ce qui est mis en avant, y compris par les concepteurs de ces outils-là, qui disent surtout il faut pas trop réfléchir, il faut se libérer. Ils disaient beaucoup, ça va libérer la main et les yeux. Libérer la main parce qu'on n'a plus de morceaux de papier dans la main. Les yeux parce qu'on n'a plus besoin de regarder des feuilles avec des numéros d'allées et des nombres de colis. Mais au final, c'est presque l'idée de se libérer au sens où vous n'aurez plus à réfléchir, ne vous inquiétez pas. Et là, il y a une évidence, quand on a cet âge-là, que en fait, ça ne marche pas, ce qu'on nous a appris au lycée. Et il y a encore des métiers hyper ouvriers, hyper taylorisés, qui fonctionnent avec des nouvelles technologies. Et ça, c'est pas contradictoire. C'est un secteur, la logistique, qui a beaucoup transformé les mondes ouvriers en France. C'est proche d'un million d'ouvriers aujourd'hui dans la logistique. Donc si on met transport et logistique, c'est plus 1,7 million, 1,8 million d'ouvriers dans ce secteur. Et un chiffre qui est facile à retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un quart des ouvriers en France, le transport et la logistique, alors que c'était un peu plus de 10% dans les années 80. Donc il y a vraiment de plus en plus d'ouvriers du transport et de la logistique dans le monde ouvrier.
On est à l'entrée du site d'Amazon Montélimar. Donc voilà, c'est là l'entrée principale pour les salariés, puisqu'il y a une entrée pour les camions qui se situe un peu plus loin. Bah, c'est un entrepôt, hein, c'est gris, c'est pas très joli. Mais voilà, c'est un grand entrepôt avec plusieurs portes au niveau des quais pour que les camions puissent se mettre à quai. C'est hyper sécurisé, quoi. C'est sans autorisation. C'est impossible de rentrer, il y a des portiques de toute façon, voilà, tout est fait pour que ce soit verrouillé, quoi. Ah bah parce que Amazon a une relation avec les médias qui est plutôt complexe. Si ça va dans leur sens, c'est cool, mais ils supportent pas que voilà des journalistes puissent investiguer sur les conditions de travail. Après moi, bon, vu que je suis un salarié protégé du fait que j'ai été représentant du personnel, donc non, je suis moins exposé. Mais un salarié qui témoigne dans la presse à son nom propre et à visage découvert, potentiellement, il pourrait être licencié, quoi. Je m'appelle Robin Collignon, j'ai 36 ans et je suis préparateur de commandes, enfin agent d'exploitation logistique à Amazon Montélimar.
Alors moi, je m'appelle Abib Latrèche, j'ai 47 ans et je travaille dans l'entreprise Amazon Nova Planck sur le site de Lille 1, à côté de Douai, dans une petite ville du Nord. L'entrepôt, on va dire en termes de superficie, se rapproche à peu près à 10 terrains de foot. Si je dis pas de bêtises, on est le deuxième plus gros de France.
Ma première expérience à Amazon, c'était en 2011. Je sortais de mon BTS, donc je venais de finir mes études. Voilà, j'avais besoin de trouver un travail rapidement. J'ai pris ça un petit peu par défaut, parce qu'à Montélimar, c'était un des seuls endroits où on pouvait trouver du travail facilement. Ici, à part Amazon les grandes surfaces et puis tout ce qui est fast-food, il n'y a pas énormément de travail pour les jeunes.
Dans le bassin minier et dans la région du Nord, on a beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Et lorsque Amazon s'est présenté à moi en tant qu'intérimaire, j'ai travaillé et ensuite ils m'ont embauché.
La première fois que j'ai passé la porte d'Amazon, je me souviens que j'étais assez impressionné. J'avais déjà travaillé dans des entrepôts, mais plus en usine. Enfin, ça donnait un petit peu une impression de surabondance, quoi. Qui me vient pour décrire la logistique, c'est ou frénésie ou folie. Tout le temps à flux tendu, rapide, c'est une surabondance d'articles, de colis, etc. Enfin, c'est vrai que le e-commerce, c'est un modèle qui est quand même assez fou, quoi. Et moi, j'ai pu le ressentir un peu au début, quand je voyais des gens qui s'activaient partout et tout, j'étais là, je me disais, waouh, qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc, c'est pas simple, ouais.
Le matin, en prise de poste, on a toujours un briefing. On nous dit, il y a tant d'unités, il va falloir envoyer les colis, et on nous le précise. Et il y a une forme de pression insidieuse. Et on nous explique que, il faut envoyer, quoi. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais en vrai, oui, on sait pertinemment qu'il y a un quota, qu'il y a des quotas, des performances ou des productions. Peu importe comment vous le dites, mais il y en a. Officiellement, non. Officieusement, oui. Après, il y a les échauffements. Et donc, on passe notre badge pour l'heure. Et après, on passe sur un autre petit cadran qui nous dit où est-ce qu'on va travailler. Et par exemple, moi, le matin, je commence souvent au pack. Et je passe mon badge. Et là, on m'a dit, tu vas aller au pack. Alors, packer, c'est lorsqu'on assemble les cartons dans des colis. Donc, on prend les articles, on les met dans les colis. Picker, c'est lorsqu'on est dans les grandes allées qu'on voit dans les photos où on a un chariot où on prélève les articles.
Quand je suis en picking, c'est vrai qu'on peut marcher quand même beaucoup. Si on fait une journée entière de picking, alors apparemment on marcherait à peu près 15 km en moyenne.
C'est vrai que c'est tout le temps monotone en fait, tout le temps la même chose, des gestes répétitifs, donc à chaque fois il faut envoyer quoi. La fin de journée, on sent beaucoup la douleur physique, 19h30, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Chez Amazon, les troubles musculo-squelettiques, c'est pas une légende, ça existe vraiment.
Il y a pas mal de salariés qui finissent en inaptitude, ça a des effets... sur le long terme, hein, parce que au début on supporte, mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs années, on sent déjà des problématiques physiques qui peuvent arriver. C'est vrai que moi j'ai pas mal de soucis de douleurs au niveau des lombaires et au niveau du bassin. J'ai eu des tendinites au poignet. Je pense que c'était plus lié au scanner dans toute la partie préparation de commande.
Au-delà de l'aspect physique, il y a aussi beaucoup l'aspect psychologique, parce qu'on a mal, mais on sent mal, quoi. Donc on se retrouve beaucoup au kiné. Moi j'ai un abonnement chez mon kinésithérapeute, il me connaît. Ils ont mis un ostéopathe attitré dans l'entreprise, où on peut le voir, c'est payé par l'entreprise. Mais déjà ça, c'est pas normal, le fait de voir un ostéopathe, parce que voilà, on est cassé de partout. Et puis à un moment donné, arrivé à un certain âge, on n'arrive plus à suivre, quoi.
Il y a beaucoup d'accidents du travail à Amazon, sauf que à 100% des cas, ils sont toujours contestés par l'employeur. Pour telle ou telle raison, voilà, l'employeur va dire que c'est le salarié qui n'a pas respecté les consignes de sécurité, etc. Ou qu'il avait déjà mal en arrivant. Enfin bon, ils vont trouver tout un tas d'excuses pour que les accidents du travail ne soient pas reconnus.
La safety chez Amazon, c'est savoir travailler de façon sécurisée dans un environnement sécurisé. Ça va également jusqu'à l'hygiène, l'ergonomie des outils et des postes de travail. C'est parti, safety team.
C'est la règle numéro 1. On a les conditions de sécurité qui sont suffisantes et derrière, on peut faire du bon travail et aller livrer les clients.
C'est aussi très rassurant pour le directeur de site que je suis de savoir qu'il y a une organisation safety qui est stricte et appliquée au quotidien par chacun. Ça permet d'être sûr que nos collaborateurs sont en sécurité à chaque instant.
En vrai, sur le terrain, ça c'est je suis désolé de rire, mais voilà, réellement, c'est faux, c'est complètement fou. C'est safety first quand ils veulent. Quand il y a les unités qui tombent, que là, il est bon, mal combat, là, il faut envoyer les colis le plus vite possible, c'est safety last, quoi, c'est ça en dernier.
D'un côté, ils vont mettre la pression sur des règles de sécurité qui peuvent parfois être absurdes, comme tenir la rampe en montant l'escalier. Et d'un autre côté, en fait, on travaille pendant des heures dans un environnement qui n'est pas adapté, avec des postes qui ne sont pas toujours ergonomiques, avec un espace de travail qui est pas fait pour travailler correctement, quoi, pour faire des bons mouvements, et avec des cadences qui forcément, sur le long terme, vont avoir des conséquences physiques sur les gens. Quand on travaille dans l'urgence, qu'il y a un manager qui met la pression pour que ça aille plus vite, les gens ils respectent pas les gestes et postures. Et après, s'ils se font mal, la direction va dire « Ah, c'est sa faute, il n'a pas respecté les gestes et postures ». Ils mettent des affichages un peu partout en disant « Pensez à avoir une bonne hygiène de vie, à bien dormir correctement ». Mais bon, à un moment donné, en fait, quand on travaille à des horaires décalés, qu'on change tout le temps son rythme de sommeil, tous les médecins disent qu'on ne peut pas avoir un sommeil correct, quoi, en fait. Le fait d'avoir des horaires alternés, ça m'a causé des troubles du sommeil. Donc de faire une semaine matin où je me lève à 5h et une semaine d'après-midi où je finis à 21h, ça fait partie de toute cette hypocrisie de à la fois dire aux gens de prendre soin de leur santé, mais en même temps les conditions de travail et le contexte de travail ne le permettent pas. Donc en fait, c'est une façon de culpabiliser les salariés, de renvoyer en fait la responsabilité sur eux, alors que c'est clairement l'employeur qui est responsable des conditions de travail et de la dégradation de la santé, quoi.
Bienvenue à l'usine, ce matin c'est 6h pile, ambiance morbide, j'espère que t'es solide. Tout le monde a son truc pour éviter le suicide. Pour les jeunes c'est la weed, pour les vieux c'est la bibine. J'ai le schlag swag, noir fluo, stylé chaussures de sécu et 3/4 fluo. La vie nous a carotte mais on garde haut le poireau. On est une bande de potes au fin fond d'un entrepôt.
Les entrepôts, à la fois, ils se ressemblent et ils se ressemblent pas. Donc, il y a quand même des principes qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, c'est un secteur qui a beaucoup besoin de main-d'œuvre. Donc, un entrepôt, c'est beaucoup d'ouvriers. Après, il y a certaines distinctions dans les sous-secteurs qui sont importantes. Il y a des secteurs où les colis sont beaucoup plus lourds. Par exemple, la boisson, c'est des colis très lourds. Il y a des secteurs où les colis sont très légers, la pharmaceutique. Donc, par exemple, dans la pharmaceutique, il va y avoir des mouvements beaucoup plus rapides des objets et beaucoup plus de gestes répétitifs dans le travail au final et moins de charges lourdes. Ensuite, il y a aussi des sous-secteurs comme le e-commerce et la livraison des colis qui ont certaines spécificités. Il y a plus de sous-traitance, il y a plus d'intérim, il y a plus de nouvelles technologies et de traçabilité aussi dans le e-commerce. Donc à chaque fois, les métiers vont être un peu différents, mais avec des grandes caractéristiques communes. Il faut vraiment souligner le fait que le discours sur l'automatisation des entrepôts, il est très exagéré. Ça fait des années qu'on nous dit que bientôt les entrepôts seront automatisés, que c'est des métiers qui vont disparaître, alors qu'en fait les chiffres de l'emploi ne cessent de croître. Alors bien sûr, il y a des gains de productivité, mais il y a aussi de plus en plus de besoins en logistique. Donc au final, ça s'équilibre, et donc il y a quand même de plus en plus d'ouvriers dans les entrepôts. Mais même du point de vue de l'automatisation, si on regarde bien les entrepôts aujourd'hui, il y a extrêmement peu de tâches qui sont automatisées, au sens où il n'y a plus d'humains qui les font. Il y a des tâches qui sont accélérées, avec moins d'humains pour faire la même tâche, mais il y a très très peu d'automatisation. Et plus largement, en fait, cette idée que les métiers pénibles dans la logistique comme ailleurs vont disparaître grâce aux nouvelles technologies, cette idée, elle existe depuis les débuts de la révolution industrielle. Il y a toujours eu des gens pour dire ça et ça n'advient jamais. Donc on peut se dire que peut-être que ça va finir par advenir et qu'il va y avoir une disruption. En général, les gens qui disent ça aiment bien ce mot-là. Mais c'est un pari sur l'avenir qui est extrêmement risqué. Moi, je suis persuadé que ça n'arrivera jamais.
Je m'appelle le Taïef Hassan. Je fais comité réceptionnaire à Judis.
Je m'appelle Justice Ilombo. Je travaille à Judis, Calberson, Île-de-France.
Judis, c'est une filiale de la SNCF. C'est, quand on dit filiale de la SNCF, on dit l'État.
Beaucoup de gens ne connaissent pas Judis et beaucoup de gens ne connaissent pas ce que nous faisons à Judis.
Là, on est 210 salariés. On fait presque 60 000 colis, 80 000 colis par jour.
Il y a des habits, des chaussures, des petits colis, par exemple un petit pli, des plantes, des batteries, des animaux vivants, des cercueils. Tout, on transporte tout, sauf les êtres humains.
On dit souvent que la logistique, c'est l'infrastructure du capitalisme. Avec l'émergence de la logistique comme secteur très puissant à partir des années 80, on va vers une période où la circulation devient une forme de centralité. Elle ne remplace pas la production, mais il y a une importance stratégique de la circulation. Et qu'est-ce que ça permet ? Alors ça permet des choses qu'on connaît, par exemple ça permet de délocaliser, de faire bouger la production dans des pays à bas coût, parce que quand on délocalise, on a besoin de logistique. On va envoyer la production loin, mais la consommation, elle reste chez nous. Donc il faut gérer le transport et le gérer à bas coût et de manière très efficiente. Et pour ça, il y a besoin de logistique. Il y a un exemple qu'on utilise tout le temps et qui est très utile, c'est les smartphones. Un smartphone, aujourd'hui, il est fabriqué dans plein d'endroits différents dans le monde. On n'a plus la grande usine, le bastion ouvrier, comme on l'avait auparavant. On éclate la production et on utilise le transport et le stockage à plein d'endroits du monde pour profiter des coûts de main-d'œuvre moins chers, mais aussi ça peut être des normes environnementales qui vont être moins importantes dans tel ou tel pays. Donc on va utiliser l'espace pour faire baisser le coût de production, et ça c'est grâce à la logistique qu'on peut le faire.
On est à la savonnerie Fer à Cheval, c'est un lieu qui date, qui a plus que 150 ans. C'est ici qui est fabriqué le savon de Marseille. Depuis longtemps. On est la plus grande et la plus ancienne savonnerie à Marseille.
Si on achète un savon de Marseille, tout près de Marseille, on va dire à Aix-en-Provence, en fait, du point de vue de l'entreprise, de la grande entreprise qui a produit ce savon de Marseille, c'est plus efficient de le produire à Marseille, de le stocker dans un énorme entrepôt à Orléans, parce que c'est au centre de la France, et de le faire redescendre à Aix-en-Provence, plutôt que de le livrer directement de Marseille à Aix-en-Provence. Donc nous, on a eu l'impression de consommer quelque chose de local, mais en fait, derrière tout ça, il y a eu de l'infrastructure logistique. Et donc notre acte de consommation, il n'a pas transformé le mode de production au final, et voire même on a été un peu dupé sur notre pouvoir d'agir en tant que consommateur.
C'est une copine qui m'a dit, elle m'a dit, j'ai dit, si on cherche des gens, est-ce que tu peux pas venir travailler avec moi ? Je suis venue, j'ai vu qu'il y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Au début, c'était un peu compliqué, mais après je me suis habituée.
J'étais un intérimaire depuis 2008. J'étais embauché 2009, manutentionnaire, mais maintenant je fais réceptionnaire. À l'entrepôt, surtout pour moi, c'est la famille. Quand on dit la famille, c'est une journée pour voir ma famille. C'est pas des collègues pour moi, c'est ma famille.
De voir une femme travailler dur comme eux, pour eux, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ils me disaient, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne veux pas travailler ailleurs? Pourquoi tu ne veux pas chercher une formation? Pourquoi tu es venu travailler ici? Je dis, ben, je fais ce que je veux. Laissez-moi travailler, je suis venu ici pour travailler, je dois travailler. C'est très, très, très physique. Et... Parfois, c'est ça qui pèse. Hein. C'est très physique et il y a des... C'est une journée qui est parfois un peu compliquée. Quand il y a beaucoup de colis, quand il y a beaucoup de travail.
Ça fait presque 18 ans que je suis là à Géodis. Et quand je suis devant la télé, il faut que je mette le volume parce que je n'écoute pas bien par rapport à, par rapport au bruit de la chaîne. Bah, quand on rentre chez nous, t'as mal à la tête. Hein. Il y en a qui en prennent des médicaments pour dormir à cause de cette chaîne. Bah, bruit de la chaîne, de moteur, c'est plus qu'un avion. Hein, plus que, t'as vu quand l'avion quand il descend. Je ne dors pas. Des faldènes je prends tous les jours à cause de mon dos. Si je ne le prends pas, j'ai mal. Moi, j'ai mes enfants, je ne peux pas le porter beaucoup. Je ne peux pas, j'ai mal au dos. Parce que moi, j'ai pris beaucoup de charges lourdes. Et à cause de ça, j'étais opéré sur moi, au dos, à hernie discale L4, L5, 2016. J'ai resté deux ans, je ne travaille pas. J'étais en accident de travail, à cause de travail, à cause de charges lourdes.
Travailler de nuit, c'est l'habitude, on est habitué. Hein. Quand tu travailles de nuit, tu as plus d'argent que de jour. C'est vrai qu'on sacrifie notre sommeil, on sacrifie les enfants. Parce qu'on n'a pas le temps de souhaiter bonne nuit aux enfants, on n'a pas le temps de dîner avec nos enfants, mais c'est le choix. J'ai fini à 1h30, du coup je me couche à 2h. Je me couche à 2h, mais je me réveille à 7h. Parce que je dois déposer mes enfants à l'école, je dois les apprêter et les déposer à l'école.
Ton salaire il rentre le 30, le 2, le 3, le 4, nous, chez nous, à Géodis, le 5, tu demandes des acomptes. Tu n'arrives pas à sortir parce que tout est augmenté, il n'y a que le salaire qui n'augmente pas. C'est pour ça, moi je fais deux boulots pour nourrir ma famille, pour payer le loyer. Avec une seule salaire, tu n'arrives pas à sortir. Tout est cher. Je fais le ménage le matin, mais le soir, je fais le logistique à Géodis.
Bon, vous regardez derrière. C'est propre.
Il y a beaucoup de métiers où il y a un mépris, où peu de monde se soucie de ce qu'ils vivent au travail et en dehors du travail, parce que de toute façon, le travail a un impact sur la vie. Enfin, déjà, c'est le salaire qui détermine les conditions de vie. Et puis, voilà, les conditions de travail ont un impact aussi sur la vie à côté. Et c'est vrai que il y a beaucoup, je dirais même une majorité de salariés, je pense, qui sont dans cette condition-là d'être invisibilisés de partout, que ce soit médiatiquement, politiquement, enfin même dans des œuvres de fiction, enfin au sens large, quoi. C'est vrai que c'est des personnes qui font tourner la société, mais dont on parle jamais, dont peu de gens, enfin voilà, pas beaucoup de monde se soucie de leurs conditions, de ce que ces personnes peuvent vivre.
Le racisme, j'aime pas parler de moi, mais moi j'étais traité bonioul. C'est pas les bonioul que vont faire la loi. C'était 2018 ou 2017. Ça m'est blessé, la vérité, ça m'est blessé. J'ai dormi mal, hein, je ne dors pas à ce moment-là. J'étais un peu choqué. Et sur le quai, il n'y a que des Noirs, des Arabes, des Portugais, des Chinois. Mais au bureau, il n'y a que des Français, mais il n'y a que des Blancs. Et en bas, il n'y a que des migrés. Si quelqu'un il part en retraite, nous, on fait tout le monde. On invite même les bureaux en salle de pause, en bas, on fait son départ. Et si quelqu'un au bureau en haut, non, eux ne nous invitent pas. Il n'y a que eux entre eux. C'est grâce à nous qu'ils gagnent l'argent. Toujours, je le dis, c'est mon salarié. Il faut qu'ils nous respectent. C'est tout. Ils ne comprennent pas. Les patrons, ils ne comprennent qu'avec une grève. Le dialogue, ça n'existe pas.
Difficile. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible?